Le 21e siècle est le siècle de la donnée, du big data. On en parle souvent dans un contexte peu réjouissant, par exemple lorsqu'il s'agit de l'utilisation abusive des données confidentielles, mais pour un pays comme le Luxembourg, l'avenir réside dans cette ressource numérique et dans son utilisation ingénieuse.
You know, we think about Luxembourg as a small country. What can we do which no other country can do? And that's typically what we can do.
Que ce soit dans l'énergie, que ce soit dans la santé, on retrouve à chaque fois le même ingrédient qui a la donnée.
In a nutshell, it's a bottom-up approach to ensure that we keep our data sovereignty in Europe and don't fall behind.
Bienvenue dans le podcast de Lux Innovation. En collaboration avec le Luxembourg Journal, nous parcourons l'économie luxembourgeoise. Vous allez découvrir le large portefeuille de services offerts aux entreprises ainsi que les organismes de recherche publique par le biais de Lux Innovation.
Certains disent que le data serait l'or noir de notre siècle, le new oil de l'économie actuelle et future. Et quand on voit les efforts déployés ces dernières années pour non seulement stocker cet or de manière intelligente, mais aussi pour l'utiliser dans le sens du progrès, on ne peut qu'approuver la comparaison. Le Luxembourg l'a compris et est donc en route vers l'économie du futur. À travers cet épisode, nous allons vous présenter trois exemples qui prouvent que c'est bien le cas. Le président de Lux Innovation, Mario Grotz, est en charge de la direction générale Industrie, Nouvelles Technologies et Recherche au ministère de l'Économie. Il nous explique les origines de la focalisation sur le data au plan national.
Déjà en 2019 ou 2018, le ministère de l'Économie a publié sa stratégie sur les données, Data-Driven Strategy, qu'on a appelé dans le temps, et c'était le premier pays, en tant que Luxembourg, on était le premier pays vraiment en Europe de publier une stratégie économique basée vraiment sur la donnée. Et là déjà, on avait identifié plusieurs, surtout trois créneaux sur lesquels on voulait travailler. L'infrastructure, développer l'infrastructure. On est déjà assez bien loti au Luxembourg au niveau de la connectivité, au niveau du stockage des données, mais on a rajouté aussi avec la puissance de calcul et le projet Meluxina, on a rajouté aussi au niveau de l'infrastructure un élément très important pour le traitement des données. Deuxièmement, on avait aussi regardé l'environnement financier et légal à ce niveau-là. On a regardé est-ce qu'il faut développer d'autres instruments financiers pour favoriser l'économie de données. Est-ce qu'il faut peut-être aussi apporter des changements au niveau de la législation? Et aujourd'hui, on est en train de travailler sur tous ces sujets-là afin de rendre cet environnement beaucoup plus attractif encore. Le dernier et troisième élément, c'était vraiment celui du traitement de la donnée. Est-ce qu'on peut développer des applications basées sur les données qui sont très abondantes? Donc, il n'y a pas un souci que la donnée n'existe pas, elle existe bien et belle, mais elle n'est pas, souvent pas disponible. Et dans ce contexte-là, dans ce troisième axe, est venue l'idée vraiment de dire il faudrait aussi une plateforme qui nous permet en fait d'accéder à cette donnée et d'expérimenter avec ce type de données.
Mais comment alimenter cette plateforme? Romain Martin est en charge de la coordination stratégie et politique, digitalisation et stratégie data au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
Pour utiliser la donnée, elle doit être disponible en grande qualité. Et il faut aussi que les gens qui produisent ces données, qui nous fournissent ces données, peuvent être vraiment avoir une l'âme tranquille dans le sens qu'ils sont, ils ont la garantie que cette donnée est utilisée en respectant toutes les garanties qu'on veut fournir en termes de protection des données et en termes d'utilisation des données dans d'une manière transparente où tout le monde sait ce qu'on fait avec ces données.
Pour cela, on a besoin d'expertise. Ceci a été le point de départ de la mise en œuvre d'une plateforme nationale d'échange de données qui se présentera sous forme d'une infrastructure unique avec l'ensemble des services qui sont nécessaires pour l'exploitation de la chaîne de valeur des données. D'ailleurs, il faut ici souligner le mot « échange ». Il ne s'agit pas de créer un grand lac de données qui contient tout. Les données restent là où elles sont. Le défi est un autre.
Les données sont produites à des endroits où elles ont ce qu'on appelle une utilisation primaire. Si j'ai un registre, on vient d'en parler à un collègue, parce que justement, je suis quasiment tous les jours dans dans des conférences où on parle internationalement d'utilisation de données et de registres. Là, c'était un collègue finlandais qui a parlé de le registre des où sont les voitures qui sont immatriculées dans un pays. Ça, c'est la première utilisation. Après, vous pouvez éventuellement vous poser des questions de mobilité qui vont au-delà de l'administration que vous voulez réaliser avec ces données. Alors, la première chose qu'il vous faut, c'est de savoir déjà que ces données existent. On parle souvent du principe FAIR, que les données doivent être findable, accessible, interoperable and reusable. Et c'est justement ça qu'on doit garantir, qu'on sait déjà quelles données sont là, qu'on a ce qu'on appelle des métadonnées, c'est-à-dire qu'on sait quand est-ce qu'elles ont été collectées, dans quel contexte est-ce qu'elles ont été collectées. Et sans cela, vous ne pouvez pas, si vous posez une certaine question, savoir quelles données vous avez potentiellement à votre disposition. Et ça sera une première chose à faire, c'est d'aider aussi les administrations publiques, mais aussi les acteurs de la recherche, de faire en sorte que leurs données suivent ce principe FAIR que je viens de décrire, justement pour, dans une première phase, déjà savoir quelles données est-ce qu'on a. Et ensuite, on peut alors, si on se pose une certaine question, on a idéalement un catalogue où on voit quelles sont des données qui sont potentiellement disponibles. Et ensuite, naturellement, ce qui est aussi un grand principe dans l'utilisation des données, c'est de ne pas utiliser plus de données que celles dont on a besoin pour répondre à une question spécifique. Et ça aussi, ça nécessite que j'ai un catalogue où je sais que, voilà, si je prends telle ou telle données, alors j'ai potentiellement une réponse à la question que je suis en train de me poser.
La pandémie a montré que souvent, nous n'avions pas les données dont on avait crucialement besoin à cause de questions légales ou techniques qui n'étaient pas résolues. L'interopérabilité entre les différentes bases de données n'était-elle pas non plus garantie ? La nouvelle plateforme utilisera donc les données au bénéfice de la société et des citoyens. L'objectif n'est pas de créer de la valeur économique en tant que telle, mais de développer des produits et des services qui ont et auront un impact clair sur la société. Et il ne faut pas s'imaginer un grand ordinateur quelque part, non. La plateforme, c'est les gens, les experts dans le domaine.
On aura des data stewards qui vont aider justement d'une manière délocalisée les différentes administrations, mais aussi les différents chercheurs à justement rendre leurs données dès le départ dans un état où ils pourront à la fin éventuellement, il ne sera pas le cas pour toutes les données, mais certaines pourront être publiées en open data, d'autres seront dans un format où justement cette interopérabilité est pensée dès le départ. Donc on aura surtout besoin de beaucoup d'expertise qui, naturellement, aura besoin de créer des solutions techniques. Si je dis génération automatique de contrats, naturellement, il y aura une application technique qui tournera derrière. Mais la vraie expertise sera dans l'expertise légale pour mettre du contenu dans ces applications. Et c'est comme ça qu'il faudra se l'imaginer. Je pense que aussi, si on pense comment se répartira le budget, une grande partie va être dans les ressources humaines, dans ces experts dont on aura besoin pour justement mettre au point ces services autour de la donnée.
Ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est en fait chacun a la même préoccupation de rendre ses données accessibles, mais c'est très difficile en fait de le concrétiser. Cette plateforme vraiment permet de mutualiser ces services-là et de les offrir à tous les acteurs qui sont concernés, aux acteurs de la recherche, aux acteurs aux différents ministères, mais aussi aux acteurs du secteur privé. Et c'est exactement cette mutualisation des services qui permet vraiment d'offrir une très grande valeur ajoutée aux différents acteurs.
Donc il ne s'agit pas d'un concept théorique, comme le précise Romain Martin.
On va prendre des cas d'utilisation concrets, on va partir de ces cas-là et on va construire les services à partir des besoins qui sont déjà là. Et on a identifié un certain nombre de cas et là, je pense que le bénéfice aux citoyens sera évident tout de suite. Un des premiers cas, c'est un cas dans le domaine de la santé, où on veut justement développer des procédures de santé individualisées. Et la santé individualisée nécessite naturellement, on parle de beaucoup de données de santé, on essaye de voir, par exemple, quel traitement bénéficie au plus à quel patient. Et on a vu, encore une fois, la pandémie nous a montré, la grande question a été pourquoi certaines personnes deviennent gravement malades d'un même virus et d'autres ne sont pas gravement malades. Et on ne pouvait même pas le distinguer en disant si une personne est en bonne santé, n'a pas eu de maladie antérieure, elle n'est pas à risque de développer une maladie grave. Donc, comprendre cela est typiquement une question de médecine personnalisée et qui a besoin d'un grand nombre de données et la possibilité de faire un retour vers le patient à la fin. Et donc ici, ce cas de figure-là vous montre déjà à qui reviendra le bénéfice. Le bénéfice reviendra in fine au patient. Un autre use case, et ce sont que des exemples, c'est cas de figure de l'énergie. On a maintenant la possibilité de bien observer notre réseau national parce qu'on a des smart meters dans tous les ménages. Et on sait que devant nous est un temps où on veut développer la mobilité électrique, mais on sait très bien que injecter délocalement des sources d'énergie renouvelables dans un réseau qui jusqu'ici était extrêmement prévisible et en même temps avoir de plus en plus de voitures électriques éventuellement en soirée vont se connecter pour une charge que pour réaliser cela de manière à ce que ça fonctionne à la fin, à la satisfaction de tous les citoyens et qu'en soirée, vous pouvez charger votre voiture électrique sans que les lumières, par ailleurs, vont s'éteindre dans la rue. C'est justement un défi. Et ce défi nécessite des données. Et justement, en rendant les données accessibles, en investissant maintenant dans la recherche, on est sûr qu'on pourra gérer ce défi à l'avenir pour vous donner deux exemples concrets, mais je pourrais continuer la liste.
Donc, ce qu'on ne vise pas, c'est clairement de faire concurrence au secteur privé. Il existe aujourd'hui des plateformes privées qui permettent l'échange de données entre entreprises. C'est clairement pas cela ce qu'on vise. Ce qu'on vise, c'est vraiment de favoriser la collaboration entre public et privé au niveau de l'innovation. C'est vraiment les projets d'innovation qu'on essaye vraiment de favoriser. Donc, il y a plusieurs objectifs, clairement, de créer un environnement favorable à l'innovation. Bien sûr aussi, deuxième point, c'est la mutualisation des différents services pour les offrir aux différents acteurs. Et le troisième élément, c'est vraiment de contribuer ici au développement d'une économie nationale vraiment orientée vers la donnée. Et cette économie orientée vers la donnée s'exprime dans les différents secteurs, que ce soit dans l'énergie, que ce soit dans la santé, que ce soit dans le domaine du spatial, que ce soit dans le domaine de l'industrie. On retrouve à chaque fois le même ingrédient qui est la donnée afin de développer les nouveaux services et les nouveaux produits innovants pour le futur. Peut-être à rajouter la notion de tiers de confiance. Je pense que c'est très important aussi que la plateforme, quelque part, sert de tiers de confiance aux différents acteurs. Si je vous donne un exemple, si par exemple il y aurait un projet collaboratif entre Goodyear et Michelin sur les données relatives aux pneus pour, par exemple, développer des applications au niveau de la sécurité routière, ben, il est tout à fait vrai que Goodyear serait probablement d'accord de donner accès à ces données, mais tout en ayant sûr que les secrets industriels ne soient pas mis en doute.
Un point important mis en avant par Mario Grotz. Dans beaucoup de cas, il n'est pas nécessaire de voir les données pour travailler dessus. Et dans le cas de la plateforme nationale d'échange de données, toutes ces questions de sécurisation sont prioritaires. Les responsables espèrent pouvoir faire fonctionner la plateforme prochainement, et ceci avec des projets concrets.
Les grands milestones seront effectivement liés aux projets auxquels on va s'attacher pour développer les services. Et on a naturellement, l'année 2022 va être une année très importante parce qu'on veut en tout cas en fin d'année, avoir des activités qui sont en cours et peut-être avoir déjà aussi des premiers services qui ont été développés, des premiers résultats qui ont été obtenus.
La plateforme prend la forme juridique d'un groupement d'intérêts économiques dont les membres fondateurs représentent le gouvernement et les institutions publiques de la recherche luxembourgeoise. Et si on crée une copie du Luxembourg ? Si l'on en croit Thomas Calstenius, le CEO du Luxembourg Institute of Science and Technology, modéliser notre pays en version digitale permettrait de pouvoir mieux prédire et agir. La simulation d'un pays entier est une idée audacieuse, mais elle est techniquement réalisable. Dans un interview en anglais, il nous a expliqué le principe du digital twin, le jumeau numérique, qui dépend des données sur lesquelles il se fonde.
So a digital twin of a country like Luxembourg can help us to understand the country as such and also predict how the country will evolve. And that's good for, of course, for the public or for the citizens of Luxembourg, because we can provide a better quality of life. It's also important for the decision makers in this country, because we can help them to take decision based on facts and figures and simulations. So that is something that could help us when we take decisions about whether the border should be open or not in the case of an emergency and such things. It's also good for us researchers, of course, because we have a platform which we can work with. And it's also good for companies, because companies can have what we call a test bed, which will help companies to, let's say, try out new products and services in an environment which is actually nationwide. So it serves a purpose for all four of them.
Un jumeau est essentiellement utilisé pour prédire l'impact d'une action dans un monde simulé avant qu'elle ne soit réalisée dans le monde réel. Un tel jumeau catapulterait le Luxembourg dans un pôle d'excellence en termes de développement numérique. La construction se fait graduellement du niveau local au niveau national. C'est la première fois qu'un État tente de mettre ceci en œuvre, y compris l'interaction entre les régions urbaines et rurales. Mais l'idée, elle, n'est pas nouvelle.
The concept comes from an idea we had in industry that if we can make a digital version of something, let's say you can make a digital version of a car or a wheel or something like a tire, we can build something that we can understand how it works, and we can also predict how it will work in the future. And that concept has been around specifically for the manufacturing industry for some time, because it really helps us to build better manufacturing plants and predict the future of manufacturing. But now this idea is growing from the, let's say, the manufacturing into other application fields. So we look at, for example, urban planning. We also look at energy and energy systems. You know, what is the electricity system, the gas system, the heating system of this country going forward. We look into mobility, which is a well-known question in Luxembourg. It's fair to say, how can we make sure that the public transport and the traffic we have in this country is optimized and fit for purpose. We can look at it from a natural resources point of view. So we can do a lot of different things with a model like this in mind.
Thomas Calstenius a participé au projet City of Things à Anvers, qui combinait notamment des données sur le trafic avec des informations sur la qualité de l'air et les nuisances sonores. Il pense que toutes les conditions sont réunies pour que le Luxembourg devienne à la fois un pionnier et un terrain d'expérimentation pour l'utilisation de ces technologies. Il cite notamment le système informatisé de mesure de la production et de la consommation d'électricité, qui est l'un des plus avancés en Europe.
Luxembourg, as you know, is a beautiful country, but it's not so big. So we Luxembourg is, as we say, 600,000 people during the night and 800,000 people during the day. There has been attempts to build, and with some success, digital twins of cities, you know, of the size of Luxembourg. So we know that we can scale it up to something like the size of Luxembourg. But it has not been done for a country completely like it has been done before. So, of course, that's a research challenge we do. And it's also a distinguishing feature by, you know, think about Luxembourg as a small country. What can we do which no other country can do? And that's typically what we can do. You can't really build a digital twin of, you know, a bigger country like Germany, France, or even Belgium, but you can build a digital twin of Luxembourg. And in this respect, it's also a bit of a, let's say, competitive advantage of being a small country for a change. So that's a bit our idea.
En matière de GDPR, de protection de données, il n'y a pas de souci.
And I would say that our digital twin is GDPR compliant by design. So we design it with the general data protection and privacy in mind. Maybe the first is that the use cases we look at are not really involving immediate privacy sensitive data. So we look at traffic, we look at electricity. We don't use the data from people in the digital twin as it stands today. Secondly, we actually don't move the data. The data is where it is. We only look at, let's say, the analysis of it. So we actually don't look at the data more in detail, and we let it reside where it should be. So we don't move the data. We just look at the result of it. And that's an architecture philosophy of it. But in short, this is a very good question. It's also an important design feature of our digital twin to be fully protected against privacy and security violations.
Pour compléter notre trio de projets numériques orientés vers le futur au Luxembourg, fixons désormais notre regard sur les nuages numériques, dans le domaine du cloud computing. Gaia-X est un projet de développement européen qui, au niveau national, vient d'accueillir un tout nouveau coordinateur à sa tête avec l'arrivée de Ralf Fuchstadt chez LuxInnovation le 1er décembre dernier. On lui a demandé de nous expliquer le principe de ce projet de manière simple. L'interview était, elle aussi, en anglais.
I think an official reply, of course, would be it's an European initiative to build a common European data infrastructure. But I'd say there's much more to it than that. So in a nutshell, it's a bottom-up approach to ensure that we keep our data sovereignty in Europe and don't fall behind. If you look around, you'll see that most of the cloud technology and similar initiatives are either based in Asia or in the US, and only a fraction of this is happening in Europe. Another good definition is maybe by saying what it's not. So because people are asking, oh, will this be a company? No, Gaia-X is not a new company. It's not hardware or it's not software per se. It's important to understand that Gaia-X is really bottom-up initiated, but top-down supported. It's a little bit similar to what happened in the aviation industry in the late 60s. So some organizations realized that they simply need to team up. And that's really what's happening. There are quite a few other EU cloud initiatives, but they're not running in competition. They're more or less driven from a different angle or by a different funding scheme or with a different focus. So, for example, you have the Big Data Value Association. Then you have a lot of things which come from the EU Commission pouring down. But there's always a special focus. Something is on data spaces. Something is on common grounds for science organizations. Something is on the Cloud Federation Services. So this is where there are some differences, but the main goal or the main direction in which all of these things go is pretty much the same.
Gaia-X est une initiative de grande envergure qui compte plus de 300 membres à ce stade et qui avance à grands pas. Le hub luxembourgeois n'est pas dirigé par un seul acteur du secteur, mais beaucoup de parties prenantes des secteurs politiques et scientifiques sont représentées et l'accent est mis sur les projets transfrontaliers. Pour Ralf Fuchstadt, Gaia-X offre avant tout une chose.
It gives users or companies a choice. And that counts regardless if you're looking for, let's say, a supplier, if you're looking for an infrastructure, if you are delivering an infrastructure, if you're looking for collaboration, if you want to offer data, if you want to sell code or services. So that's the ecosystem per se. And a large part of it is actually building standards. This is a little bit like, imagine if you're buying a car and you want to import it to Luxembourg. If you go over here to the administration, basically they just ask you for an international standardized document, which is that COC. And if you have that, you can be sure that your car can legally be registered over here and you have the peace of mind that you can use it over here or in other European countries. And the only reason why that actually works is because there is a standard that is not only driven by one supplier, by one vendor. That's the vendor locking principle. So, for example, depending on which phone you're using, good luck trying to transfer that to a different brand. So it gives users a choice, and giving a choice also means that there is a nice competition and a nice offering because it builds an ecosystem. That's probably for me the most important thing there. As a Luxembourgish company, if you want to bring a service to market, for example, you know, it could be anything, could be something for the financial market or could be something for the space industry. But let's say you want to create a service, then you make it compliant to Gaia-X standards. Everybody around in the countries around us knows, fine, I can use this service because it's compliant. I also have the same thing, not only for getting services into the country, but also for offering services out of the country. So for us, as Luxembourg, from a Luxembourgish perspective, it gives us reach to a much bigger market, and that's extremely important for smaller players or players in a smaller country.
Ce qui implique aussi que la taille d'un pays n'est plus forcément un désavantage.
In a digital world, the rules have changed. So before it was the bigger the better, but you see what happened to the dinosaurs. So over here, faster is much more important than bigger, and this is something that we're really good at. If you're coming from abroad and you start to work over here and you realize how fast you can actually move things if you talk to the right people, or how easy it is to get access to move things, then this is actually a true asset over here with regards to the digital environment. So we were not a Gaia X founding member, but when we as a country realized it's important, we moved fast, and we were an early adopter. That counts for the hub founding as well, for example, as putting the topic on the table of the government. So once we explained that why this is actually a really true and really important European initiative, then you also see that the gears start to move in various places. So, for example, there's a foreseen budget in the national plan. And if you scale that budget, for example, by country size, that would result in Germany having 3 billion. I think that's a pretty serious commitment, because Germany doesn't have 3 billion, whereas we, being a lot smaller, we have already a foreseen budget for the next years of 25 million. And, you know, last but not least, it's an EU initiative, and we're literally sitting in the middle. So not only geographically, but also economically and also culturally. For us, we realized that when we have these hubs meetings with the other hub coordinators, for us, it's really, really much easier to discuss things, for example, with the French hub, with the Belgian hub, with the German hub, whereas you see that they already have, there's the gap cultural, language-wise, a little bit bigger between those three than it is from us sitting in the middle. So I think the positioning for Luxembourg is really, really well when it comes to digital, and especially for big data. And of course, Gaia X is at the core of that.
L'étape suivante consistera en des initiatives concrètes qui produiront des résultats tangibles et pertinents, dans le but de montrer que ces idées ne sont pas seulement intéressantes et belles, mais qu'elles ont une utilité bien réelle. Mais comme le démontrent tous les projets que nous venons de vous présenter, le Luxembourg est à la pointe des développements dans le domaine des données. L'avenir est prometteur.